Heure locale, le podcast qui entre dans l'univers d'un correspondant international de la RTS, la radio-télévision suisse. Je suis Francesca Girofo et aujourd'hui on appelle Grégory Pless à Sydney.
Oui, allô?
Salut Grégory, c'est Francesca. Comment vas-tu?
Ça va et toi?
Ça va très bien, je te remercie.
Heure locale, un podcast de la RTS.
Je devrais plutôt te dire bonsoir, hein, c'est bientôt l'heure de l'apéro chez toi.
Oui, il est 18h20, ouais.
D'accord. Grégory, chez toi c'est Sydney, la véritable capitale vibrante australienne. Où es-tu en ce moment, Grégory? Où est-ce que tu habites? Dans les environs de Sydney? Dans le centre-ville?
Alors oui, j'habite assez proche du centre-ville. Je suis à 4 stations de train, 10 minutes en scooter de l'hypercentre de Sydney. Ici, on appelle ça le CBD, le Central Business District. Donc c'est à peu près la seule partie de la ville où il y a des grandes tours et des gratte-ciels. Et le quartier où j'habite, on pourrait dire que c'est un peu un quartier bobo. En tout cas, c'est l'un des plus animés. Il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de cafés. C'est pas très très vert et c'est pas non plus au bord de la plage, mais il y a d'autres attraits. Donc effectivement, une vie nocturne et culturelle plutôt intéressante, ce qui est pas si courant que ça dans une ville comme Sydney où globalement on se couche assez tôt.
Et pourtant c'est une grande ville Sydney, il y a un opéra fameux, des restaurants, on imagine que c'est un endroit assez animé.
Ben oui, mais pas tant que ça en fait, non. Effectivement, c'est l'une des choses d'ailleurs qui m'a le plus surpris quand je me suis installé ici, parce qu'effectivement une grande ville du monde comme ça, on s'attend à ce que ça bouge. Et en fait, les gens ont un rythme de vie vraiment très différent. Ici, on se lève très très tôt. Si vous allez à 5h30, 6h du matin à Bondi Beach, par exemple, la plage la plus connue de la ville, vous aurez des dizaines de gens qui sont en train de faire du jogging ou qui sont carrément en train de nager ou de faire du surf. Par contre, et surtout là, alors qu'on approche des mois de l'hiver austral, passer 20 heures dans certains quartiers, c'est complètement désert. Donc c'est un autre rythme de vie, c'est pas forcément plus désagréable, c'est peut-être un peu moins drôle, mais c'est comme ça, effectivement.
Grégory, est-ce que tu peux nous décrire une journée type chez toi? Ça fait donc tu habites à Sydney depuis 2018, tu es journaliste aussi pour la RTS et pour des médias français et belges. Tu travailles depuis chez toi?
Oui, en gros, quand je suis pas en reportage, je travaille essentiellement de chez moi. Donc, quand je me réveille, je prends mon petit café, mon petit déj, je lis un petit peu les actus, donc je fais un peu le tour des différents sites d'actualité australiens, les médias publics, les quotidiens papier privés, y compris la presse de Rupert Murdoch, qui n'est peut-être pas forcément la plus objective, mais qui est malgré tout informée. Il faut voir un petit peu tout ce qu'il y a. Et puis en fonction de ce que je vois, parce que ce qui fait la une en Australie n'est pas forcément ce qui va intéresser les médias en Europe, je me dis tiens là j'ai peut-être quelque chose à proposer ou pas. S'il y a des choses, je commence à envoyer un petit peu des mails aux différentes rédactions pour lesquelles je travaille en espérant que ça morde. Et sachant que à ce moment-là en général c'est le milieu de la nuit ou la fin de la soirée de votre côté de la planète, je sais que, à quelques exceptions près, où il y a des rédactions qui travaillent 24 heures sur 24, ça va prendre plusieurs heures avant que j'ai des réponses. Donc, en gros, j'ai fait ma première partie de mon travail de la journée, c'est-à-dire proposer des sujets. Et puis, après, en général, j'ai quelques heures devant moi. Donc, quand j'arrive à me motiver, ce qui n'est malheureusement pas aussi fréquent que je le souhaiterais, je vais, par exemple, courir un petit peu dans le parc qui est à côté de chez moi ou faire du vélo ou faire des longueurs à la piscine. En 5 ans ici, je me suis toujours pas mis au surf. Et puis si, par hasard, j'ai déjà des rendez-vous qui sont prévus pour le travail, des interviews, des reportages, dans ce cas, je me déplace. Et puis au moment où les rédactions parisiennes se réveillent, on va dire, et commencent à regarder les courriers qu'elles ont adressés, pour moi, ça correspond, selon la période de l'année, au milieu de l'après-midi, voire au début de la soirée. Donc quand c'est des sujets très urgents, ça veut dire qu'en fait ma journée de travail commence véritablement, c'est déjà le soir ici. Si c'est des sujets un peu moins chauds, je commence à envoyer des mails ou à passer des coups de fil pour essayer de caler des rendez-vous pour le lendemain, pour écrire mes articles ou faire mes reportages en radio et les envoyer le plus vite possible aux rédacteurs en chef qui les ont commandés.
Alors, tu le disais, hein, c'est vrai que ce qui fait l'actualité en Australie n'est pas la même qu'ici, bien évidemment. En plus, c'est un continent qui apparaît très calme, stable. Est-ce que c'est difficile d'intéresser les auditeurs suisses, en l'occurrence, hein, les nôtres, à ce qui se passe là-bas? Est-ce que c'est tout un art, celui de proposer des sujets? Comment tu t'y prends?
Alors, oui et non. Effectivement, ça l'est, et je dois dire que depuis quelques mois, ça l'est encore plus.
À cause de l'Ukraine, à cause de Gaza.
Voilà, il y a une place délimitée pour l'actualité internationale dans les journaux à la RTS comme dans les autres médias. Et en ce moment, effectivement, elle est quand même pas mal, et c'est tout à fait légitime, hein, cannibalisée par des guerres très sérieuses qui se déroulent dans d'autres parties du monde. Et dans l'Australie, où les choses sont plutôt calmes, c'est effectivement plus difficile d'intéresser les médias, en tout cas sur des sujets, on va dire, sérieux. Alors, c'est pas très simple. Après, l'Australie, il y a ce côté, c'est un continent, un pays qui fascine quand même beaucoup en Suisse, parce que ça ressemble à l'Europe et en même temps, c'est complètement différent. Il y a des animaux bizarres, les gens ont des coutumes qui sont un petit peu différentes. Donc j'arrive à m'en sortir en faisant des sujets sur des choses qu'on va considérer comme un petit peu insolites, on va dire. Donc oui, il faut un petit peu être inventif, on va dire.
Être inventif, tu le dis, et parler de sujets sérieux en faisant un peu un pas de côté. Tu avais fait assez récemment un sujet sur l'outback noir, un style de roman policier qui a le bush australien pour décor, avec un détective aborigène. Ça aussi, c'est un moyen de parler des problèmes qui affligent aussi ce pays, de parler de choses sérieuses, mais en faisant justement un pas de côté.
Oui, absolument. Et à vrai dire, j'ai un peu découvert par hasard ce style littéraire et cinématographique comme ça, en me disant « mais c'est des histoires géniales ». Et au-delà d'être divertissantes, elles mettent le doigt sur des vrais problèmes qui existent dans ce pays et qui sont également assez exotiques pour un public suisse, puisque voilà, on parle de la condition des aborigènes, par exemple, et comment plus de 200 ans après la colonisation, en fait, il y a toujours des inégalités criantes qui existent entre cette population et le reste des habitants de ce pays. Et donc, oui, c'est assez plaisant de pouvoir toucher à des sujets comme ça, en discuter avec les auteurs de ces œuvres, même si, encore une fois, j'aimerais le faire davantage. Mais voilà, la production culturelle en Australie, disons que le charbon, c'est plus important que les bouquins, quoi, quand même, ici.
Autre sujet quand même important hein, en Australie, c'est le sujet sur le changement climatique. Bon, il y a beaucoup de problèmes hein, qui frappent ce continent, des problèmes de sécheresse, il y a beaucoup d'émissions de CO2. Et on se rend pas compte parfois que ce pays qui est vu un peu comme un paradis sur Terre, aussi un des plus gros exportateurs d'énergie fossile au monde, c'est un pays qui fait aussi assez peu pour le climat. C'est quelque chose qui t'interpelle, toi, comme journaliste, en tout cas, comme correspondant.
Effectivement, l'Australie doit avoir d'excellents communicants qui travaillent à l'image du pays, parce que globalement on a plutôt effectivement l'image d'un pays avec une nature très luxuriante, avec tout un tas d'animaux très exotiques, les koalas, les kangourous, etc. Il y a aussi un petit peu tous ces fantasmes sur tous ces animaux qui peuvent vous tuer en Australie. Donc on se dit, s'il y a autant d'animaux, c'est que les choses vont plutôt bien. Alors qu'en fait, effectivement, c'est un pays qui vit essentiellement de son sous-sol, qui est exporté normalement de charbon, de gaz naturel, et qui, d'une certaine manière, est un petit peu, pour les Suisses et les Européens de manière générale, un peu une fenêtre sur leur avenir. Et cet avenir, il n'est pas très réjouissant, parce que, comme vous l'avez signalé, on a ici déjà des très gros problèmes de sécheresse. Et en gros, les années où il n'y a pas de sécheresse ou carrément des feux de forêt, comme ceux d'il y a 3 ou 4 ans, qui sont, je le rappelle, hein, les plus graves de toute l'histoire de la planète, les années où c'est plus humide, on a carrément des pluies, des inondations. C'est le cas d'ailleurs aujourd'hui où je vous parle. Il a plu plus de 100 mm de pluie sur Sydney. Plus de 100 vols ont été annulés juste aujourd'hui. En fait, ça s'arrête jamais. Puis à côté de ça, il y a la question de l'érosion des côtes qui est... un vrai problème ici aussi, sachant que 90% de la population vit à moins de 50 km du bord de l'eau. Donc, effectivement, c'est un sujet majeur. Et l'Australie est à la fois un pays qui est l'un des premiers concernés vraiment sur la ligne de front en matière de dérèglement climatique, mais aussi l'un des principaux responsables. Et comme Eh bien, l'extraction des matières premières et notamment des énergies fossiles, c'est vraiment le cœur de l'économie australienne. Ils ont beaucoup de mal à engager une transition, on va dire, parce que bah, c'est ça qui fait que l'Australie est un pays aussi prospère, même si il y a quand même un mouvement qui est engagé. D'ailleurs, le nouveau gouvernement n'arrête pas de faire valoir qu'au-delà du charbon et du gaz, l'Australie, dans son sous-sol, a également à peu près tous les minéraux et tous les métaux nécessaires pour mettre en œuvre la transition énergétique, qu'il s'agisse de lithium, de nickel, de cobalt, etc., etc. Donc peut-être qu'un jour, ce sera un pays un peu plus vert, mais pour l'instant, on n'y est pas encore.
Grégory, je voulais te demander, tu étais là aussi pendant toute la durée du Covid. L'Australie a été d'une dureté, d'une sévérité draconienne avec ses mesures de confinement. Ça fait beaucoup souffrir hein, même les Australiens qui étaient à l'étranger. Comment toi, tu as vécu ça? Est-ce que là aussi, on ne se rend pas compte à quel point l'Australie peut être dure hein, par rapport à ses frontières, par rapport à ce qui vient de l'extérieur aussi?
Oui. Alors, par rapport à ça, je suis très partagé. Enfin, en tout cas, disons que mon opinion a pas mal évolué au fil de la pandémie. Dans les premiers moments, j'ai trouvé que cette réaction très ferme, le zéro Covid, etc., c'était une excellente idée parce qu'on voyait qu'ici, quand on en était encore au niveau des victimes, toujours à quelques centaines, et que parmi cette centaine, plus de 90%, c'était des gens de plus de 70 ans. Donc, je dis pas que c'est moins grave, mais enfin, c'était pas voilà des jeunes fauchés en pleine ascension, et que dans le même temps, en Europe, on était déjà à des dizaines de milliers de morts. Donc, je me disais, ce qu'ils font en Europe, c'est n'importe quoi. Et je suis très content d'être en Australie parce que, ben, pour le coup, je me sens quand même un petit peu protégé. Tout ça, c'était très bien tant qu'on n'avait pas de solution face au Covid. Et puis, il y a eu les vaccins qui ont commencé à apparaître et là l'Australie s'est complètement plantée. Ils ont tout misé sur le vaccin AstraZeneca, sauf que l'immense majorité des gens n'avaient pas de vaccin et il n'y en avait pas d'autres. Et donc face à ça, bah, ils ont continué à maintenir cette idée du zéro Covid, donc des confinements à répétition, port du masque, interdiction de déplacement à plus de X kilomètres de chez soi, etc. Et surtout, et ça a été le plus pénible à vivre, fermeture totale des frontières du pays pendant plus de 2 ans. Alors, vous pouvez dire, oui, vous, Grégory, le petit français, ça vous chagrine, c'est normal, mais il faut savoir qu'en Australie, plus de 30% de la population est née à l'étranger, donc je suis pas du tout une exception dans ce pays. Il y a beaucoup de gens bah, qui ont été éloignés de leur famille, incapables de les voir, y compris pour des moments tragiques, par exemple assister à l'enterrement d'un proche, etc., tout simplement parce qu'on avait interdiction de quitter le pays. Et ça, c'est quand même, pour un pays qui est censé être démocratique, une mesure vraiment extrême, quoi. Et c'est là où j'ai vu un petit peu la limite. Et à mesure où les autorités annonçaient de nouvelles règles, toujours plus strictes, si vous voulez, c'était repris dans les médias qui disaient, bon, bah, à partir de maintenant, on peut plus faire ci ou on peut plus faire ça. Mais il n'y avait aucun débat, aucun commentaire sur est-ce que ces règles sont légitimes et en gros, où s'arrêtent les limites de notre liberté, si vous voulez. Les Australiens sont très docile, donc ça a un côté extrêmement reposant et très agréable, mais c'est aussi en fait assez inquiétant. Une fanfare entonne l'air de Beds Are Burning pour encourager les milliers d'Australiens ayant répondu ce week-end à l'appel du collectif Rising Tide pour bloquer le port de Newcastle.
We're about to paddle out into the harbour here at Newcastle and block some coal ships from entering and leaving the harbour.
Le tribunal est allé dans le sens de ces ados en reconnaissant l'existence pour la ministre d'un devoir de protéger la jeunesse contre le changement climatique. Alors concrètement, ce devoir, qu'est-ce qu'il implique?
Le juge a estimé que toute nouvelle mine de charbon peut émettre des gaz à effet de serre, pouvant conduire à un point de non-retour et déclencher des conséquences catastrophiques pour la santé des enfants, voire même provoquer leur décès.
Un 4x4 file sur une piste de terre traversant une immense plaine rocailleuse. Pas une âme qui vive, aussi loin que puisse porter le regard. Bienvenue dans l'Australie sauvage, celle des aborigènes, mais aussi des mineurs et des grands propriétaires terriens. C'est dans ce décor que se déroulent les intrigues d'un nouveau genre de roman et de film policier, l'Outback Noir.
All those funds for new roads. They could go to fake companies, and you could keep the money.
Get one of your lackeys to sign up local more.
Grégory, on va parler un petit peu de toi. Donc, on l'a dit, hein, ça fait, tu es là depuis 2018, donc un peu plus de 5 ans. Ta femme est australienne, elle est aussi journaliste. C'est vrai que l'Australie, on a l'impression qu'il y a une grande qualité de vie, que les gens passent effectivement leur temps à la plage, à faire du surf, même si toi tu n'en fais pas, ou faire des barbecues dans leur jardin. C'est important ça, ça, c'est une partie importante de la vie australienne, de cette qualité de vie australienne. Vous y participez aussi ?
Oui. Comme je le disais au début de notre échange, il n'y a pas une vie nocturne ou culturelle particulièrement développée ici. Et l'une des raisons, c'est parce que les gens vivent plutôt le jour que la nuit, tout simplement. Et pourquoi ? Parce que il y a un climat, en tout cas à Sydney, très agréable, quasiment 10 mois sur 12, il fait plus de 20 degrés. Là, on va arriver dans l'hiver, au pire, il va faire 12-13. Bon, ça reste tout à fait supportable. Sydney, c'est vraiment l'une des plus belles villes de la planète. Pour moi, avec Rio de Janeiro, il n'y a pas plus beau sur Terre. Et puis, aux alentours, effectivement, il y a une nature immense. Hein, c'est un territoire gigantesque où il n'y a que 25 millions d'habitants. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'espace qui reste relativement vierge. Et donc, par exemple, rien qu'à Sydney, à moins d'une heure de voiture, j'ai accès à 3 ou 4 parcs nationaux différents qui sont immenses, dans lesquels on peut se balader, faire ce qu'ils appellent ici du « bushwalking ». Et c'est vraiment une activité très courante, quoi. C'est pas réservé à un petit groupe qui est particulièrement féru, je sais pas, d'ornithologie ou autre. C'est vraiment quelque chose que beaucoup, beaucoup de gens font sur leur temps libre, le week-end, etc. Et moi, je m'y suis plié assez facilement. Alors, je dis pas que j'y vais tous les week-ends non plus, mais c'est très appréciable et disons que ça compense plutôt bien le fait que la vie culturelle en dehors de ça est quand même assez assez calme.
Et tu t'es fait des amis là-bas ? C'est quoi, une communauté de journalistes ? Comment est-ce que vous avez élargi votre cercle social ?
Alors, la communauté de journalistes, en tout cas de journalistes francophones, elle est quand même extrêmement limitée. Hein. On doit être 4 ou 5 et on n'est pas tous à Sydney en plus. Donc, c'est pas dans ce groupe-là que j'ai quoi faire une équipe de foot, par exemple. Pour ce qui est des amis, faire des connaissances, ma femme, qui est originaire de ce pays, mais qui a vécu en Europe avec moi pendant plus de 15 ans, elle en avait encore un petit peu, mais des amis d'enfance avec qui elle a jamais perdu contact, mais au final, pas tant que ça. Et puis, sur ces 5 années, il y a eu 2 années de Covid avec des confinements, etc., qui n'étaient pas exactement idéales pour faire de nouvelles rencontres. Et j'ajouterais, on est arrivés tous les deux à l'âge de 35 ans et c'est un petit peu un âge où les gens ils commencent à constituer des familles, etc. Et en disant que c'est peut-être pas la génération la plus simple pour nouer de nouveaux contacts, etc. Les gens qui ont notre âge australien, ils ont déjà leur groupe d'amis qui date de l'université, du lycée, etc. Beaucoup de gens qui viennent de l'étranger ici, qui s'y installent plus tard, mais aussi des Australiens qui viennent d'autres régions, qui se sont installés à Sydney. Et tous ou presque nous disent, on trouve que à Sydney, c'est quand même extrêmement dur de faire des rencontres. Les gens sont très tribaux, on va dire. Ils restent un petit peu dans leur groupe de base et ont un petit peu du mal à s'ouvrir à de nouvelles personnes, on va dire.
Mmh. On dit souvent que Sydney, comme d'autres villes, comme Melbourne, c'est une ville très multiculturelle. Est-ce qu'on le sent, ça ?
Ah oui. Alors, pour le coup, complètement. Et il y a vraiment des gens de tous les continents. Et à Sydney en particulier, il y a quand même une communauté asiatique extrêmement importante et de tout le continent. Hein. On a des Chinois, des Vietnamiens, des Philippins, des Indonésiens, enfin... par exemple, l'offre en termes de restaurants, je la compare avec ce qu'on trouve de là où je viens à Paris, où en gros on a des restos chinois, des restos vietnamiens et quelques Thaïs. Là, on a vraiment tous les pays de l'Asie qui sont représentés dans les restaurants. Et par ailleurs, la cuisine est 100 fois meilleure que celle qu'on trouve à Paris à ce niveau-là. Et il y a des gens effectivement de tous les continents, de toute l'Europe, des Italiens, des Grecs, des Allemands, des Suisses aussi. Ils sont pas très nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns. Des latino-américains et c'est vrai pour le coup ils sont assez peu représentés, quelques africains autant du Maghreb que d'Afrique subsaharienne, mais c'est pour l'essentiel des gens qui sont arrivés en Australie avec des visas de réfugiés ou des visas humanitaires, donc il y a une communauté soudanaise par exemple qui est assez importante, Mais le ramadan vient de se terminer. Il y a quelques jours, je suis allé avec des amis manger un couscous et on allait dans un restaurant marocain. Il n'y en a que deux dans tout Sydney. Voilà.
Tu aimes voyager dans ce pays? Tu estimes bien le connaître?
Ah, j'adore voyager et malgré les distances effectivement qui sont énormes, j'y prends toujours un énorme plaisir parce que la vie en ville ici à Sydney est complètement différente de celle qu'on trouve dans ce qu'on appelle ici l'outback. Depuis 5 ans, j'ai eu l'occasion d'aller au moins une fois dans chaque état et territoire australien, et y compris dans des endroits où je pense que l'immense majorité des Australiens ne sont jamais allés et ne mettront jamais les pieds. Il y a quelques années, pour la RTS par exemple, j'avais fait un reportage dans une ferme de crocodiles au fin fond du territoire du Nord qui avait été racheté quelques années plus tôt par le groupe LVMH. Là, on était vraiment complètement perdus. D'ailleurs, quand j'y suis allé, c'était la saison des pluies et la seule route qui permet d'y accéder était fermée. Et donc, on a dû y aller en hélicoptère et l'hélicoptère, ça a duré plus de 2 heures. C'est pour vous dire à quel point c'était paumé. Évidemment, pas de réseau téléphonique, à peine de l'électricité aussi d'ailleurs. Donc, j'adore faire ce genre de déplacement. J'ai eu l'occasion d'en faire quelques autres aussi, effectivement, dans l'ouest de l'Australie qui est sans doute la partie du pays la moins peuplée et la plus déserte, on va dire. C'est des paysages magnifiques et c'est vraiment des gens assez différents. Le problème, c'est que l'Australie est immense et peu peuplée, ce qui veut dire que ce genre de déplacement, ça coûte quand même très cher. Et donc, c'est un petit peu que le bât blesse, c'est que j'ai des idées, mais je peux pas toujours les mettre en œuvre en raison des coûts que ça implique.
Merci Grégory pour cet échange. Je te souhaite une très bonne soirée à Sydney.
Merci.
À bientôt Grégory.
À bientôt.
Ciao.
Bye.
Sydney, c'est terminé. Heure locale est un podcast produit par Tout un monde, réalisé par Frédéric Tsand. Notre attaché de production, c'est Adèle Oettinger. Et il nous reste tout un monde à parcourir. En attendant, parlez de ce podcast autour de vous. Il s'écoute sur PlayRTS, Apple Podcast ou Spotify. Et nos correspondants parlent tous les jours, ou presque, à la radio.